Dans son livre « La plus que vive », Christian Bobin écrit « Il nous faut naître deux fois pour vivre un peu, ne serait-ce qu'un peu. Il nous faut naître par la chair et ensuite par l'âme. Les deux naissances sont comme un arrachement. La première jette le corps dans le monde, la seconde balance l'âme jusqu'au ciel. » Rebecca a dû naître deux fois pour s'apercevoir qu'elle n'avait pas l'existence qu'elle espérait. Et cette deuxième naissance a bien failli lui être fatale. Vous écoutez Transfert, épisode 325. Un témoignage recueilli par Laetitia Germain-Thomas.
Chez lui, dans une culture juive traditionnaliste, on fait certaines fêtes, mais il n'y a pas de foi particulière, on va dire. On ne va pas à la synagogue, en fait. On y va juste à Kippour. Ma grand-mère maternelle, pendant la Seconde Guerre mondiale, elle a été élevée dans une école catholique, en fait. Quand j'étais petite, elle jurait Jésus-Marie-Joseph. Et elle a une façon de transmettre le judaïsme plutôt au niveau identitaire, quoi. À Kippour, elle mange, alors que c'est une fête où on est censé jeûner. Quand je vais chez elle, c'est poulet basquaise et couscous, quoi. Je suis mise dans une école juive au collège et au lycée. Et mon rapport à ça n'est pas forcément très apaisé, dans le sens où je ne suis pas forcément communautaire, quoi. J'étais bien à l'école primaire, dans un melting pot culturel, j'aimais bien ça. Et quand j'arrive là, je me sens un peu enfermée, quoi, on va dire. J'ai une culture tellement française, tellement assimilée, on va dire, que je mange du porc et je me sens un peu l'ovni de l'école, quoi. Alors après l'école juive, je fais des études en fac catholique. Et d'une certaine manière, ça me touche pas mal. Je fais des études de philosophie et on nous transmet certaines choses sur le rapport à Dieu et au christianisme. Pendant le confinement en 2020, j'ai 21 ans et je vis certaines expériences assez fortes et je développe vraiment un lien fort vis-à-vis du christianisme, à tel point que j'envisage de... Je pense à me convertir à certains moments et je tombe sur un livre d'une femme qui écrit sur la méditation et la figure du Christ. Et en fait, je lis ce livre et je vis une expérience hyper forte de rapport au Christ, quoi. Je le vois et je sens cet amour infini, quoi, qui me guérit et bah, ça me bouleverse à vie, quoi. J'y pense tous les jours. Mais je me sens encore très très juive et je comprends que c'est impossible pour moi de me convertir parce que je serai toujours juive, dans les yeux des autres surtout. Et c'est vrai que c'est quelque chose d'assez fort parce que je me dis que je pourrais jamais me dépêtrer de ça, que c'est un poids ancestral qui est sur mon dos, quoi. Et en fait, j'y peux rien, quoi. Depuis que je commence des relations avec des garçons, donc depuis mes 18 ou 19 ans, je cherche plutôt un garçon juif et je crois que c'est parce que il y a une forme de sécurité dans le fait d'être compris sans que moi-même je comprenne ce que c'est d'être juive, quoi. Mes parents ne sont pas nés en France, en fait, ils sont nés en Tunisie. Et moi, je me dis depuis très jeune que je vais peut-être partir, enfin devoir partir. Et je n'ai pas envie de faire subir ça au compagnon que j'aurai qui n'est pas juif, quoi. Donc un jour, j'arrive à une célébration juive d'amis de ma famille. Et bon, il y a beaucoup de monde. Et ma sœur et moi, on balaye un peu l'assemblée du regard. Et en fait, on repère en même temps quelqu'un qui est très, très grand, qui a une super belle présence, très charismatique. Et il dépasse toute l'assemblée d'une tête. Il est brun. Ma sœur et moi, on se regarde, on dit « bon, il est pas mal, lui ». Et il se trouve que j'avance sur la piste de danse et à un moment, il vient me parler. Et bon, je suis un peu flattée, forcément. Et il me dit son prénom, il s'appelle Samir. Et moi, je saute un peu au plafond en me disant, bon, sur 100 juifs, je tombe sur le musulman. Et pourquoi pas? Donc, à la fin de la soirée, je fais un petit détour pour le saluer et lui dire au revoir. Et il me donne son numéro. Et on continue à échanger un peu dans les semaines qui suivent. Mais je sens pas qu'il est super intéressé, j'ai pas l'impression, donc je crois qu'on passe un peu à autre chose tous les deux, quoi. en 2021, donc j'ai 23 ans et je sors de mon école de journalisme et je décroche un stage assez dingue parce que c'est exactement dans le secteur où je veux travailler. Et je travaille là-bas pendant 6 mois et c'est génial. Franchement, je suis hyper heureuse, mais je continue pas là-bas et c'est un peu une désillusion violente, quoi. Et je trouve un emploi dans une boîte franco-américaine. Il y a une sorte de prestige derrière, entre guillemets, mais prestige financier. Mais pour moi, ça s'arrête là, en fait. C'est dans le secteur dans lequel j'ai envie de travailler, mais très orienté marketing, quoi. Donc moi, ça me convient pas du tout, au fond. Mais je persévère, je force mon corps tous les jours. Et je vais un peu à l'encontre de moi-même pour satisfaire mon père, quoi. Je suis pas bien du tout, hein, mais ça se voit pas. Je le cache, mais je continue tous les jours ma vie, quoi. Métro, boulot, dodo. Et au fond de moi, je suis en train de hurler, quoi. Et je me dis, est-ce qu'il y a quelque chose qui va me sortir de ce tunnel infernal? Parce que j'en peux plus. Enfin, je suis malheureuse, mais personne ne le voit, quoi. Depuis petite, j'ai des problèmes de dos. J'ai la colonne vertébrale tordue. Je me fais masser tous les samedis pendant 2 heures. Donc, chez quelqu'un, chez un masseur chez qui je vais, qu'on m'a conseillé. Et chez lui, c'est vraiment que du bouche à oreille. Il n'a rien d'officiel, il n'y a pas de plaque dehors. Il y a une relation de confiance quand même qui s'installe entre lui et moi. Parce que voilà, ça me fait du bien. C'est la seule chose qui me libère un peu de ces semaines infernales, quoi. Un jour, je vais le voir et il force un peu parce que j'ai des tensions. Mais le lendemain, je vais chez ma grand-mère, de qui je suis très proche, et qui a une intuition particulière quand même. Et je bouge un peu l'épaule. J'ai une douleur, quoi, dans l'épaule. Et elle me dit « ça va, chérie ?» Et je lui dis « oh, c'est mon masseur qui a dû forcer un peu. » Et elle commence à me dire « fais attention, ça peut être dangereux. » La semaine suivante, je retourne voir donc mon masseur. Sur 2 heures de massage, on prévoit en fait de faire 1 heure d'exercice pour la première fois en 3 ans. Je suis vraiment fatiguée parce que j'étais sortie la veille et j'avais juste envie de me faire masser, quoi. Pas envie de faire d'effort. Et il me force un peu. Je le sens pas trop, hein. Mais j'ai pas conscience de ce que ça peut impliquer, quoi. Il appuie assez violemment. À un moment, il me masse la nuque, en fait. Et comme j'ai des tensions, il appuie comme un bourrin, quoi. Je suis sur le ventre, je me retourne. Et j'ai la tête qui tourne, en fait. C'est un manège dans ma tête. Et je me dis, mais c'est bizarre, je me suis jamais sentie comme ça. Je lui dis que j'ai la nausée, j'ai envie de vomir, il y a quelque chose qui va pas. Je me rhabille, le massage est terminé. Et j'avais un anniversaire pas loin. Je commence à tituber, je me sens très très fatiguée, quoi. Ça tourne encore dans ma tête, quoi, ça s'arrête pas. Je passe la porte de son cabinet. Et là, c'est comme une énorme cuite, quoi. Mais sans une goutte d'alcool. J'ai l'impression que j'ai bu 2 litres de vodka. Je traverse une rue à double sens, sans bien voir, sans bien entendre. J'arrive à l'anniversaire, qui est vraiment à 2 minutes à pied, quoi. Je sens que quelque chose se passe et que c'est pas normal, mais je fais comme si tout allait bien. Il se trouve qu'à table, il y a une psy que je connais, qui est très très sensible et qui me connaît un peu. Et elle me dit que dans mon regard, elle voit beaucoup de peur. Et en fait, quelques minutes avant, j'étais allée vomir aux toilettes, quoi, tellement je me sentais mal. Puis finalement, je décide de rentrer chez moi en taxi. Et la psychologue me met dans le taxi. Elle dit au taxi, elle fait un petit malaise, mais elle n'a pas bu, vous inquiétez pas. De peur que je vomisse sur le siège. Je suis dans le taxi, mais c'est pas un taxi, hein, c'est une fusée spatiale. Je me sens tellement mal que je suis plus là, quoi. En rentrant chez moi, je tiens tellement pas debout que je m'allonge directement, en fait, sur mon lit. Donc allongée, je dors 3 heures, d'un sommeil un peu bizarre. Et ma sœur m'écrit dans la nuit en me demandant si ça va mieux. Je lui dis non et il me dit « prends un bain, ça va te faire du bien, les tensions ont dû monter à la tête ». Dans un effort assez fou, je fais couler un bain. Et dans la nuit, j'écris à ma cousine qui est médecin et je lui explique que ça va pas. Il est 7h du matin quand je lui écris et en fait, je me rendors. Il est 9h du matin et elle sonne chez moi avec son compagnon qui est aussi médecin. Et je suis assez blanche et livide, quoi, j'ai plus de force. Elle et son compagnon commencent à échanger sur mon état. Lui, il est plutôt à dire que c'est un petit trouble de l'équilibre et que des médicaments feront l'affaire. Elle répond qu'elle serait plus sereine si on allait aux urgences faire un scanner. Je m'habille assez rapidement et je vais aux urgences. Elle m'accompagne en voiture. Et là, je commence à prendre conscience au fond de moi que ça va pas. Et j'ai très peur, en fait. J'arrive aux urgences, et comme on est dimanche matin, il n'y a pas beaucoup de monde, et je suis prise en charge assez vite, mais je dois quitter ma cousine, forcément. Et je vois un premier médecin qui se demande qu'est-ce que j'ai, parce que j'ai des symptômes, voilà, la nausée, les troubles d'équilibre. Je le vois mettre sa main entre ses deux yeux, se frotter la tête... se demander est-ce que je dois faire un scanner. Je fais finalement ce premier examen et ils me mettent après ça dans une salle d'attente. Il y a des sortes de cases comme ça où ça donne sur une sorte d'îlot central où tous les médecins sont là et j'entends ce qu'ils se disent en fait. Et là, je vois le médecin que qui m'avait ausculté tout à l'heure qui arrive et qui dit « Ah, dissection cervicale, la pauvre, 25 ans, il faut que je trouve une place en neuro en urgence, c'est la merde. » Donc j'écris tout de suite à ma cousine en lui disant que c'est une dissection cervicale et elle me dit que c'est ce qu'elle voulait éliminer. Et je commence un peu à paniquer et voilà, la présence de ma cousine est assez importante pour moi, donc je lui dis de revenir. Je suis transférée en ambulance dans un autre hôpital. Parce qu'en fait, quand on fait une dissection cervicale, il faut surveiller parce qu'il y a des risques d'atteinte cérébrale. Et j'arrive dans ce service. Il n'y avait pas beaucoup de médecins disponibles, quoi. Donc j'attends beaucoup. À ce moment-là, il y a mes parents qui arrivent dans la chambre et ma cousine, elle est à ma gauche. J'ai des sensations bizarres qui commencent à arriver. Et je lui dis, je sens plus trop mon côté gauche, j'ai des fourmillements bizarres. Et elle me regarde et elle me dit, tu fais un petit AVC. Et je lui dis, ah bon? Elle me dit, oui, tout petit. Je n'associe pas du tout ce qui se passe à la gravité du terme. Je comprends pas, quoi. Je réalise pas du tout. Dans la salle de l'IRM, j'ai l'impression qu'il y a de la lumière, mais qui n'est pas la lumière de l'hôpital, quoi. La pièce se remplit de lumière blanche, en fait. Et je sens que, même si je perds pied totalement et que je fais une sorte d'angoisse radicale, quoi, et ben je sens au fond de moi, que je me sens en sécurité. C'est une sensation assez bizarre parce que il n'y a aucune raison de se sentir en sécurité. Je suis peut-être en train de mourir, je ne sais pas, je me dis ça en fait. Et malgré ça, je me sens comme dans une bulle, quoi, un peu ailleurs. Après l'IRM, je retourne dans la chambre et le médecin revient avec les résultats. Et il me dit que j'ai bien fait un AVC, un micro-AVC cérébelleux, donc dans la zone du cervelet. Et je dis au médecin, mais voilà, j'ai fait des étirements, quelques exercices, et puis après, j'ai eu ce massage. Je mets longtemps avant de comprendre que c'est quand il m'a massé la nuque. C'était tellement violent qu'il a atteint une artère, quoi. Et toutes les minutes qui ont suivi, les heures qui ont suivi, étaient une sorte de long AVC. Donc quand je marchais dans la rue, j'étais en train de faire... j'étais en train de mourir. Quand je dis au masseur que j'ai fait un AVC, il le rejette complètement, il prend pas du tout sa responsabilité, il s'énerve en fait, il me dit qu'il n'a rien fait. Et ma cousine me suggérait de le poursuivre, en fait, d'enclencher une procédure en justice, alors que je voulais pas rentrer dans des démarches, mais il faut qu'il prenne sa responsabilité. On est encore dimanche, et je comprends que je vais pas retourner au boulot le lundi. Donc j'écris à ma boss en lui disant que j'ai fait un petit AVC, mais ce n'est pas grave. Je suis sur pied bientôt, je la rassure et je me rassure en même temps, quoi. Mais le lendemain de mon AVC, ma boss m'appelle, en fait, en me demandant quand est-ce que je reviens. Et je réponds, je l'ai au téléphone, quoi. Et ma mère est à côté et elle me dit, mais t'es complètement folle de répondre, t'es à l'hôpital. Et il y a un rapport assez frénétique au travail qui continue. Enfin, en fait, je suis anxieuse de me dire, mais comment ils vont faire sans moi ? Je me sens un peu fautive, en fait. Donc, dans les jours qui suivent, ma grand-mère m'appelle quand même. Je lui dis que je vais pas pouvoir passer la voir parce que je suis un peu fatiguée, quoi. Et elle me dit, oui, ça doit être ce masseur. Il faut que tu fasses attention. Il faut pas forcer, quoi. Elle a une intuition et on a un lien aussi, je pense, qui fait qu'elle a dû capter quelque chose. Pendant la semaine à l'hôpital, pour me divertir un peu, je suis pas mal sur les réseaux sociaux et je poste une photo de ce que je mange, ou plutôt de ce que je mange pas, parce que bon, j'ai beaucoup de nausées, enfin je me sens pas très bien et la nourriture est catastrophique. Donc je rigole un peu de ça et des gens réagissent en me demandant si ça va et Samir en fait partie et il s'inquiète un peu, il prend des nouvelles. Depuis que je l'avais rencontré à cette célébration, on était restés en contact plus ou moins, mais sans jamais vraiment se voir. Donc le 7 octobre 2023, je suis encore à l'hôpital et je vois sur mon téléphone qu'il y a une attaque terroriste en Israël. Je prends pas conscience de ce qui se passe non plus et surtout je suis tellement prise par mon histoire personnelle que je repose mon téléphone et je me dis plus tard. Donc je passe 5 jours en soins intensifs et les médecins décident que ça va mieux, je me suis stabilisée et je passe 2 jours en chambre seule. Ensuite, on décide que je peux rentrer chez moi. Je suis trop fatiguée pour vivre seule. J'ai pas l'énergie pour me faire à manger, me bouger. Donc je retourne chez ma mère dans les jours qui suivent. Et chez ma mère, il y a un peu les infos en continu. Et ça parle du 7 octobre, d'Israël, des attentats. Et en fait, le politique me rattrape complètement, quoi, malgré ma fatigue. Et je prends conscience de ce que je ressens par rapport à l'événement en tant que juive. Et je vois les discours surtout de Joe Biden. Et en fait, je pleure devant ce discours. Et c'est la première fois que je pleure devant un discours politique. Alors je me dis que mon AVC, c'est un peu une petite chose par rapport à ça, quoi. C'est quelque chose d'ancestral qui rejaillit, quoi. Qui me dépasse vraiment qui me bouleverse. Parce que je me dis... j'ai un peu une sorte de premier réflexe de repli communautaire, en fait, en me disant... Je suis comme eux, ils sont comme moi et on est un, quoi. Donc, ce qui se passe là-bas me touche et influe tellement ma vie. On a le même destin, quoi. La maladie, à la limite, enfin, c'est quelque chose qui ne concerne que moi. Alors que ce qui se passe à des kilomètres peut totalement changer la trajectoire de ma vie, quoi. Donc, nous, dans ma famille, même si on est libéraux, on a quand même comme tradition de mettre la mezouza à l'entrée de notre foyer. Et c'est un petit parchemin avec une prière dedans qui est enfermée dans un boîtier qu'on colle à l'entrée. Et donc, c'est un symbole de... Ici, vivent des juifs, ça veut dire. Et ma mère décide de retirer la sienne Et ça me choque énormément, quoi, parce que je me dis qu'on n'a plus le droit d'être juif ici, qu'il y a un danger. Et en fait, à chaque fois que je rentre chez moi, devant l'entrée, je me pose la question, je me dis, mais il faut que je l'enlève, en fait. Il y a une sorte d'anxiété, d'insécurité qui est installée, quoi. Et je décide d'enlever la mienne. Samir revient un peu dans ma vie, on échange et je parle de mes relations à ma grand-mère beaucoup. Vu que c'est assez tendu politiquement, elle me dit d'éviter d'en parler autour de moi parce que ça peut être retourné contre moi en fait. J'ai une amie qui travaille dans un média communautaire. Et comme Samir est un artiste et il commençait à bien marcher, je lui propose de l'inviter, en fait. Directement, à ce moment-là, elle a une réaction de rejet absolu, quoi. Je me dis que c'est totalement injuste. Si on rend coup pour coup à n'importe qui, partout et à chaque fois, on s'en sortira jamais. Et elle me dit, vu qu'elle sait que je le fréquente en ce moment, que je trahis mon peuple. C'est une sorte de réaction hyper primitive, en fait, de repli sur soi, liée à une sorte de blessure qu'on nous infligeait. Mais j'ai pas envie de rentrer là-dedans. Malgré ce qui se passe politiquement, je me suis rien interdit, alors que autour de moi, ça criait et on me jugeait, quoi. Je lis beaucoup de choses sur Internet, notamment par rapport aux probabilités de faire un AVC à mon âge suite à une manipulation, et je lis que c'est quelque chose de l'ordre de 1 sur 100 000, quoi. J'ai quasiment pas eu de séquelles, en fait, alors que ça aurait pu être vraiment grave. J'aurais pu mourir ou j'aurais pu être paralysée. Je suis quand même passée à côté de la mort, enfin, c'est la sensation que j'ai. Je décide de prendre certaines voies qui me ressemblent beaucoup plus et je démissionne de mon job. C'est pas super bien accueilli, je le sens, mais je le fais quand même parce que je peux plus me mentir. Et surtout, c'est impossible pour moi de retourner dans quelque chose qui me ressemble pas, quoi. Mon dernier rendez-vous à l'hôpital pour les scanners et les vérifications, le médecin m'a montré l'image de mon cerveau et de la tâche qui est là pour toujours. Et ça m'a beaucoup chamboulée de voir cette image. Après, c'est une petite tâche, mais c'est quelque chose qui est caché et qui fait partie de moi, quoi. Aujourd'hui, je ne fréquente plus Samir, mais en tout cas, ça m'a permis de me dire que, justement, ça peut être un enrichissement bien plus grand de partager son judaïsme avec quelqu'un qui n'a pas ça en lui. Mais ça nécessite beaucoup de discussions, quoi. Ça nécessite beaucoup de compréhension de soi. Mais je crois que c'est possible. Tous ces chocs d'octobre 2023 successifs m'ont donné l'envie de vivre, je pense, plus qu'avant. Et surtout, tout ça, finalement, m'a ramené à moi et avoir failli mourir m'a vraiment sauvé la vie, quoi.
Vous venez d'écouter Transfert, épisode 325, un témoignage recueilli par Laetitia Germain-Thomas. Cet épisode a été produit par Slate Podcast. Direction éditoriale, Christophe Caron. Direction de la production, Sarah Koskiewicz. Direction artistique, Benjamin Septem-Ours. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Benjamin Septem-Ours. Chargée de pré-production, Astrid Verdun. Prise de son, montage et habillage musical, Victor Benamou. L'introduction a été écrite par Laetitia Germain-Thomas. Elle est lue par Aurélie Rodriguez.
Retrouvez Transfert tous les jeudis sur slate.fr et sur votre application d'écoute préférée. Découvrez aussi Transfert Club, l'offre premium de Transfert. Deux fois par mois, Transfert Club donne accès à du contenu exclusif, des histoires inédites et les coulisses de vos épisodes préférés. Pour vous abonner, rendez-vous sur slate.fr/transfertclub. Pour proposer une histoire, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse transfert@slate.fr.